Écoutez.
On discute en même temps de ce fameux piano Brachos qu'on écoutait là, qui est un piano qui était exposé au château de Gruyère, et sur lequel vous avez donc joué, Adalberto Riva.
Ah oui, c'était grâce justement à David qu'on a eu le premier contact.
On avait fait des émissions autour de ce piano de Liszt, et vous avez joué Liszt bien longtemps avant. Et là, c'était Franz Liszt, puisque la musique
lui-même.
Suisse existe.
C'était Franz Liszt lui-même sur le piano Brachos.
Presque.
Non, pas dans l'enregistrement.
Qui a composé des Fleurs mélodiques des Alpes dans son album d'un voyageur en Suisse et qui a cité le Rang des Vaches, qui est certainement la plus célèbre des musiques suisses pour piano.
Ouais.
On va se poser cette question donc de l'existence et de l'importance de la musique suisse à la faveur de cet événement dont vous êtes co-organisateur un peu, Adalberto Riva. Vous allez animer une table ronde sur cette question, la musique suisse existe-t-elle, samedi à Cossonay. C'est un événement organisé par l'École de musique de Cossonay, assorti de nombreuses classes pour les petits, pour ceux des écoles et aussi pour des élèves de piano que vous allez accueillir. Et donc, présentez-nous ce projet de 3 jours assez important pour une petite école de musique du Gros de Vaud.
Oui, alors c'était un peu un de nos rêves comme association Harmonia Helvetica.
Voilà, dont vous faites partie, qui s'est créée il y a peu de temps, qui veut défendre justement cette musique suisse.
Comme le nom le dit, oui. Donc on voulait faire un événement sur plusieurs jours liés à la musique suisse. Donc on a eu la chance de rencontrer la directrice de l'école de musique de Cossonay et la vice-directrice qui ont été partantes pour cette idée. Et donc il n'y a pas seulement que l'école de musique, mais aussi les écoles publiques. En fait, les ateliers qu'on va faire vendredi sont réservés aux élèves de l'établissement scolaire de Cossonay-Pentala. Ils ont préparé des chœurs sous la direction de leur professeur, que je remercie ici, Madame Nathalie Herbeau et Elodie Willem, qui ont préparé les élèves. Donc, ils vont chanter justement une partie du Rang des Vaches. Il y aura peut-être quelqu'un qui va jouer du cor des Alpes et d'autres musiciens, dont moi-même, qu'on va jouer la même chose au piano. Et après, on va faire des choses un peu interactives pour amuser les enfants, projeter des images, des archives, des manuscrits des archives, pour qu'ils puissent connaître aussi. Disons, le but, c'est que le patrimoine qui est conservé dans les bibliothèques, surtout de Lausanne, mais Genève, de la bibliothèque de Suisse romande, mais pas seulement, puisse être connu par différents moyens. Donc les ateliers, c'est un moyen pour approcher le public des jeunes, des écoles. La table ronde, c'est pour montrer que ce patrimoine a une valeur aussi au point de vue musicologique. On l'appelait table ronde, mais en fait, ce que j'ai dans ma tête, c'est une discussion ouverte entre plusieurs musicologues qui sont là, qui vient comme Jacques Chamherten de la Bibliothèque de Genève, Madame Monnier de la Bibliothèque cantonale de Lausanne, Delphine Vincent de l'Université de Fribourg et Irène Minder-Janeret qui est membre de ce comité de pilotage pour un dictionnaire de la musique en Suisse. Donc on va discuter sur le thème un peu qui est la question d'aujourd'hui, la musique suisse existe-t-elle? Donc chacun va amener ses expériences pour montrer qu'il y a des archives, mais c'est pas un patrimoine mort, il y a de la musique contemporaine. Donc comment est-ce qu'on peut trouver un lien pour mettre en valeur dans la musique avec des concerts, ce patrimoine qui est là et qui nous attend d'une certaine manière.
Adalberto Riva, donc vous n'êtes pas suisse, c'est vous qui allez animer ce débat. Comment est-ce que vous avez découvert cette musique suisse dont on sait à peine si elle existe, en tout cas elle a très peu d'écho médiatique finalement.
Oui.
Chez nous, c'est difficile de voir des gens siffloter une mélodie à part celle qu'on vient d'entendre qui est due à Liszt à travers bien sûr une tradition beaucoup plus ancienne, mais là on va parler des musiques de la deuxième moitié du 19e siècle, du 20e siècle.
Oui.
Et vous, où est-ce que vous avez découvert cette cette musique de piano suisse?
Alors, tout a commencé justement par l'enregistrement qu'on vient de faire passer, parce que c'était justement grâce à vous, David, quand nous sommes allés à Gruyère pour les émissions sur l'année Liszt, sur le piano de Liszt, que j'ai commencé à feuilleter un peu dans la bibliothèque et j'ai découvert, je connaissais absolument rien au début, et j'ai découvert un patrimoine très intéressant, riche, qui mérite d'être mis en valeur. Donc, il y aura, par exemple, le concert qu'on va faire le samedi soir, donc après la table ronde ou la discussion, ce moment de discussion ouverte, voilà. Mm-hmm. Le samedi, toujours à la salle Pré-Humaine de Cossonay, le soir, on va démontrer en direct des extraits de ce patrimoine. Donc, il y aura du compositeur contemporain comme Michel Ostetler qui a accepté de parrainer cette manifestation et nous le remercions chaleureusement. Julien Fatsvans Binden, cette année, s'impose vu que...
il a 100 ans.
Il faut fêter ça. Oui. Et donc, après, il y aura des pièces pour piano seul et des mélodies pour voix et piano, dont on a, par exemple, celle de Gustave Doré, qui était le compositeur de deux fois la fête des Vignerons, et sa mélodie est très dramatique, c'est un des meilleurs mélodistes suisses, c'est pas moi qui le dis, oui. Vous pouvez revenir sur le sujet avec Jacques Chamkert un vendredi.
C'est une des gloires de la musique helvétique.
Oui, et Otmar Schoeck, qui est du Lied, qui sonne tout à fait allemand.
Ils sont magnifiques, oui.
Si vous lisez l'encyclopédie, il vous dit que c'est le compositeur majeur de musique vocale en Suisse, mais pas seulement au niveau suisse, au niveau international. C'est magnifique, ces airs qu'on va proposer. Donc, c'est un programme absolument inconnu pour la plupart des gens, pour moi aussi, mais vous trouvez tout de suite les liens avec la musique plutôt allemande que française, surtout ou entre fin 19e et début 20e siècle. Mais oui, on voit les liens stylistiques, mais c'est pas du Wolf ni du Strauss. On voit que la référence stylistique est là, mais par exemple avec Dalcroze, Huber, oui, c'est du Brahms, mais ça sonne pas tout à fait la même chose.
C'est la même question, un peu comme vous nous dites, d'Alberto Riva, quand on dit la Suisse n'existe pas, ce sont des influences, un mélange de cultures très différentes. Pour la musique suisse, on se pose la même question. Souvent, c'est un métissage d'influences germaniques et d'influences françaises et latines.
Oui, disons, l'histoire de la musique suisse, si vous voulez, est très mélangée à l'histoire de la culture suisse. La Suisse n'a jamais eu une organisation centralisée comme on a dans d'autres États en Europe. Je pense à la France. Bon, l'Académie française, bon, il faut être validé par ça. Ici, c'est absolument inconcevable. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie francophone, il y a une partie germanophone. Donc, les deux regardent un peu à la référence parisienne ou alémanique. Mais c'est peut-être aussi pour ça que de grands compositeurs comme Franz Martin ou Honegger, qui sont suisses, mais ils sont assimilés au langage francophone, dont le patrimoine est considéré plutôt français que suisse, même s'ils sont nés en Suisse. Donc c'est assez bizarre d'aller là-dedans, mais je pense que c'est un champ de recherche qui mérite d'être un peu creusé un peu plus et d'être mis en valeur, et surtout donner au public les occasions pour connaître ce patrimoine qui est là, muet, dans les bibliothèques. Et donc, nous, autant qu'artistes, je pense qu'on a le devoir aussi de sortir de la routine de la vie de concert et montrer qu'à côté de Brahms, Beethoven, le grand répertoire classique, il y a aussi d'autres choses, pas forcément mineures, mais intéressantes qui peuvent être redécouvertes.
On va vous entendre tout à l'heure au piano de notre studio ici en direct à Adalberto Riva. Tout d'abord, un autre disque que vous avez consacré justement au piano suisse, des œuvres plutôt de la fin du 19e siècle. Par exemple, la découverte d'Émile Robert Blanchet. On entend son étude pastorale et après on en parle.
Thank you.
C'était charmant. On discutait en écoutant, on n'est pas sérieux, franchement. Cette étude pastorale d'Émile Robert Blanchet, enregistrée par vous, Adalberto Riva. Qu'est-ce qui est suisse là-dedans? Enfin, quel est le caractère dont on pourrait se dire qu'il n'est ni allemand, ni français, ni latin ou italien?
Alors là, il n'y en a pas beaucoup, disons.
Il y a quelque chose de la Barcarolle, un peu, mais vraiment.
Blanchet, c'est le plus important musicien suisse du Suisse romande du début du XXe siècle, pianiste et compositeur. Il était très axé sur la technique. C'est pour ça qu'il a écrit beaucoup d'études. Alors, dans Blanchet, c'est difficile, franchement, de trouver. On n'a pas choisi le bon compositeur. Le côté suisse, on le trouve deux fois. C'est sur la nature, le lac. C'est quelque chose de très romantique. On peut dire aussi d'autres compositeurs, ou bien l'imitation du chant choral. Ça, par exemple, pour ce qui concerne le concert le samedi, on le trouve beaucoup plus dans le mélodie, surtout de Doré ou de Schoeck, que dans les pièces, que dans des pièces pour piano, pour ce qu'on a choisi dans ce programme. Entre parenthèses, Blanchet était aussi alpiniste. Donc il partait trois mois en été pour faire des escalades en montagne avec ses compagnons. Et il a écrit même un petit livre à bout d'un fil où il raconte ses ascensions en montagne. Ça, on peut dire c'est le côté suisse, mais on ne le trouve pas dans la musique.
Mmh. Et dans les musiques que vous allez faire interpréter, c'est vous qui les avez choisies ou c'est les élèves de la masterclass qui vont vous les proposer? Qu'est-ce qu'il y aura comme musique suisse, quel compositeur?
Alors là, je suis très content pour ce qui concerne la masterclass, parce que on avait donné comme option aux élèves de venir et de nous présenter, s'ils voulaient, quelques pièces du répertoire suisse. Et bien, pour finir, tout le monde vient avec des pièces du répertoire suisse. Donc il y a pour ce qui est le piano, il y aura du Hans Huber et de Ribeaupierre. Pour le chant, on a aussi du Zbinden et du Schoeck. Donc ils ont aussi choisi pour la harpe des pièces de Monsieur Hostetler. Je pense que les professeurs aussi ont fait le lien entre ce qui était un peu nos souhaits, mais c'était pas du tout obligatoire. Donc on est très content de voir aussi que les jeunes élèves viennent et ils s'approchent un peu de ce répertoire. Parce qu'on n'a pas dit, le samedi matin, en fait, il y a la masterclass avec tout le piano, harpe. La professeure des harpes enseigne d'abord à l'école de musique de Cossonay. Et c'est elle qui a pris aussi son groupe d'élèves qui vont faire des interventions avec des pièces de M. Hostetler à l'intérieur de la table ronde de l'après-midi. Donc tout est un peu mélangé pour que ne soit pas, disons, un container. Hein.
Soit pas ni intimidant, ni trop, trop carré.
Non. Le but, c'était en fait de présenter ce patrimoine sur différentes perspectives. Mmh. Donc, il nous a fallu plusieurs jours et plusieurs mois pour mettre ça en place. Donc, je profite pour remercier évidemment tout le comité du groupe de travail pour les nombreuses séances que nous avons fait ensemble et qu'on est en train d'aboutir dans deux jours. Et parce que sans le travail collectif de tout le monde, tout ça, ça n'arrêtait pas être possible. Et évidemment, tous les bénévoles et les sponsors qui nous ont donné pour mettre en place ces manifestations, à commencer par la commune de Cossonay qui nous met à disposition la salle, l'école pour les locaux, toute la logistique, et les musiciens, les amis, les collègues qui ont accepté de me suivre dans ces cette défi un peu fou, mais il paraît que ça intéresse. On verra.
On verra. Et avec cet ensemble, cette petite institution qui est toute jeune, qui est Harmonia Helvetica, vous avez aussi, c'est par ce biais que vous êtes devenu un spécialiste un peu de Alois Fornerau, le compositeur fribourgeois et lausannois.
Oui, alors là, c'était justement l'Espace 2 qui m'avait contacté par monsieur Antonin Scherer à l'époque pour enregistrer l'intégrale de ses œuvres pour piano. Mmh. Et là, on était déjà en train de mettre en route Harmonia Helvetica, et alors disons j'ai commencé à m'intéresser à tout ce patrimoine que je trouve encore une fois intéressant. Et la musique de Fornerau est très simple, mais elle est jamais banale. Mmh. Donc c'est de la musique un peu ancienne, vu qu'il a, ça sonne ancienne, vu qu'il a travaillé avec la Scola Cantorum à Paris. C'était ce mouvement de la recouverte, de la redécouverte des anciens maîtres Couperin, Rameau, mais même avant. Donc lui, si on regarde sa musique, ça sonne presque comme de la musique modale du Moyen-Âge. Il a composé beaucoup de musique religieuse et qui s'inspire au chant grégorien, donc tout ce qui est bien avant la musique tonale occidentale. Et il a réussi à mélanger ça dans sa musique instrumentale avec un style très personnel. C'est des pièces assez courtes, mais il y a même, ça sonne ancien et moderne, un peu, c'est comme la peinture du pré-raphaélite. Mmh. Vous prenez la peinture ancienne pour faire de l'art moderne. C'était à peu près
néoclassique, en tout cas.
Oui, aussi. Stravinsky, il manipule. Mmh. Il prend Pulcinella, par exemple, et il fait autre chose. Tandis que là, on voit la référence à la musique ancienne, mais c'est pas une copie de la musique ancienne non plus. Mais on prend ce style vieux, sévère, si vous voulez, ancien, loin, pour en faire quelque chose de nouveau, avec des harmonies tout à fait étonnantes qui ont beaucoup de couleurs.
Il y a quelque chose de protestant là-dedans ?
Ouais, peut-être aussi. Mmh.
Allez savoir si, puisqu'il a beaucoup composé aussi de chants, chants sacrés, etc., est-ce qu'on n'est pas imprimé aussi ou imprégné d'une vision musicale dépendante d'une vision religieuse ?
Oui, disons une certaine sévérité, austérité, c'était aussi, disons, ça peut venir de la religion, mais ça dans le cas de Fornerau, je pense que ça rentre tout à fait dans sa façon de concevoir la musique, ça rentre aussi dans ce mouvement de redécouverte. C'est pour ça que ça s'appelle Schola Cantorum, en fait.
Oui,
bien sûr. En se référant à la, entre guillemets, sobriété du chant grégorien, dans la pureté de la voix. Après, il paraît que c'était pas que de la voix, mais il y avait aussi des instruments. C'était une habitude assez courante de doubler la mélodie avec d'autres instruments.
Mais la pureté des lignes, en tout cas.
La pureté des lignes, oui, la pureté des lignes et du contrepoint. Souvent, il y a du contrepoint dans la musique de Fornerau. C'est de la musique avec, oui, beaucoup de clarté. Mm-hmm. Qu'on peut dire aussi ça, la clarté, c'est quelque chose de très français, mais alors là aussi...
Et l'austérité, c'est quelque chose de très suisse, parce que c'est...
Protestant, plutôt. Mais il a... Bon, Fornerau, d'abord, il avait écrit il y a certaines lettres ou articles où il défendait le patrimoine roman par rapport à la musique française. Donc après, là, il y a eu des discussions parce que c'était un peu extrême quand on commence à vouloir séparer des choses, en fait, qui sont pas si distantes. Donc on voit l'influence de l'une parce que, comme j'ai dit, au début, en Suisse, il n'y a jamais eu, et je pense qu'il n'y aura jamais une institution centrale qui chapeaute la culture. Il y a, chaque région de la Suisse a son autonomie, et donc c'est impossible d'avoir une école nationale.
Mmh, bien sûr.
Et donc, soit vous êtes obligé de vous partager entre les langues qui sont, si vous pensez aussi une langue, c'est une façon de formater votre pensée. Donc, la Suisse italienne, italienne, c'est plus proche de l'Italie, mais c'est pas l'Italie. La Suisse romande, évidemment.
Mais c'est pas la France.
Et la Suisse alémanique, c'est...
Ça n'est en tout cas pas l'Allemagne.
Voilà. Ça va de soi. Ouais.
On vous écoute encore dans justement la musique d'Aloïs Fornero. C'est la ronde du voyage de printemps. Toujours.
Le titre est magnifique.
En première mondiale sur ce disque de Swiss Piano Works.
C'est toute une époque en même temps, hein.
Oui.
Aloïs Fornero qui a bien saisi donc l'époque, enfin le style de son époque.
La modalité, hein. Je pense aussi à des mouvements, par exemple à Paris, autour de.
On pense à Millau, on pense.
Ou comme ça, oui, oui. Des visions un peu gothiques de la culture.
Absolument, oui, oui. Ronde du voyage du printemps, et c'était donc. En plus, Adalberto Riva, ça doit pas être facile à jouer.
Non. Disons, à déchiffrer, oui, parce que c'est de la musique assez simple, comme vous avez pu entendre, mais jouer cette musique, c'est l'harmonie qui donne la couleur. Donc il y a beaucoup des couleurs qui ne sont pas écrites, mais qu'il faut un peu le sentir selon le développement de cette musique qui est beaucoup plus modale que tonale. Et donc là-dedans, ça devient un peu compliqué. Oui. Parce que si vous faites les notes, ça sonne plat. Mais chercher vraiment la façon de rendre intéressante cette musique, c'est de mettre en valeur les différentes couleurs presque de chaque accord. Mmh. Alors là, ça c'est beaucoup plus compliqué parce que le piano, c'est un instrument magnifique, mais vous n'avez pas toutes les couleurs de l'orchestre. D'ailleurs, pour cette musique-là, il y a eu une double version. Premièrement pour piano et ensuite pour orchestre. Alors dans la version orchestrale, vous avez beaucoup plus de couleurs, mais l'œuvre était conçue d'origine pour piano. Et oui. Même dans les petites pièces que Fornero a écrites pour ses enfants, qui c'est une page, c'est de la musique très simple mais jamais banale, et vous avez cette couleur un peu indéfinie, qui est typiquement, si on peut dire, fornerodienne, si on peut pas impliquer les mots suisses.
Il y a quand même une signature musicale, donc
oui,
finalement.
Ça, on le reconnaît tout de suite.
Oui.
Oui. Et puis, vous êtes au piano maintenant, Adalberto Riva. Vous nous parliez de la barrière des langues, qui va d'ailleurs tenter d'être renversée demain avec cette journée spéciale.
De journée spéciale des langues, chez... oui, semaine des langues.
Eh bien, de l'autre côté de la Sarine, pour pas dire du Rushdie, il y a un compositeur qui était le premier peut-être à avoir un grand écho international suisse, peut-être après l'époque baroque où on a eu des grands noms. C'est Hans Huber, qu'on connaît effectivement très peu en Suisse romande, et qui a composé pour le piano, qui a eu des succès comme symphoniste aussi, comme grand auteur romantique, Adalberto Riva.
Oui, tout à fait. Je peux dire que Hans Huber, c'est le musicien le plus important de la deuxième partie du 19e siècle. Il a composé beaucoup d'œuvres pour piano, je crois 8 symphonies et même des opéras. C'était compositeur, pianiste, chef d'orchestre, directeur du conservatoire de Bâle. Il a étudié à Zurich et ensuite en Allemagne, et on voit son affiliation au style tardo-romantique allemande est évident, et surtout dans la musique de, disons, Brahms. Mais on trouve aussi des titres dans cette pièce très très proche de Schumann. Il a beaucoup composé des petits recueils pour piano qui sont vraiment à la manière de Schumann, avec beaucoup de contrastes. Je sais pas, les premières à ses rêveurs, le deuxième avec beaucoup de passion, beaucoup de caractère. Donc ça, c'est typiquement Schumann, mais le langage harmonique que Huber emploie n'est pas celui de Schumann, c'est celui de Max Reger, de Busoni, de musiciens qui ont forgé la génération de compositeurs de la fin du 19e, de la fin du 19e siècle.
Et il est au programme du concert qui va être donné dans le cadre donc de ces 3 jours autour de la musique suisse à Cossonay. Vous allez jouer Adalberto Riva, son opus 34 qui s'intitule Album Blätter, donc c'est très schumannien aussi, des feuillets d'albums, dont vous pouvez nous en présenter puisque vous êtes devant le Bösendorfer.
Avec plaisir, ça c'est la toute première, donc c'est l'ouverture de ce Album Blätter, et je vous laisse le plaisir de découvrir.
Beau.
Oui, très belle page d'album.
C'est très lyrique.
Ça fait penser à un intermezzo de Brahms, effectivement, oui. Un petit peu, la musique de Hans Huber.
On n'est pas loin de Gabriel Fauré non plus.
Oui.
Qui, tout ça préfigure quelque chose de cet ordre-là, très mélodique, avec un vrai travail d'harmonie.
Oui, surtout la musique de Huber, c'est, il y a beaucoup de travail au niveau de l'harmonie et on peut dire, presque du contrepoint, là. Oui. Il y avait de deuxième voix qui sort. C'est très riche au niveau harmonique.
Oui. Et très orchestral.
Oui. Et il avait des grands mains, donc. Deux fois, souvent, il emploie des grandes extensions de dixième ou même plus.
Ouais, pour lui, c'était normal, peut-être.
On reparlera de Hans Huber avec Jacques Tchamkerten après-demain, parce que ce sera le deuxième volet de cette émission autour de la musique suisse. Et vous jouez donc ses œuvres pour piano à Adalberto Riva. Et Jacques Tchamkerten sera un des participants à cette table ronde sur l'existence ou non de la musique suisse. Alors, est-ce que c'est une musique allemande? Pas seulement, puisque vous avez trouvé du Forêt, Michel,
ah oui,
dans cette page. Et il y a un autre compositeur dont Jacques Tchamkerten est le grand spécialiste, c'est le genevois Émile Jacques Dalcroze, qui a une influence énorme, lui, à travers l'Europe aussi, avec sa méthode, mais qui est un compositeur un peu négligé aujourd'hui. Vous le jouez de temps en temps.
Adam, oui, justement, on a un gros projet en route avec Harmonie Helvetica et la Fondation Dalcroze et l'Association des Amis Dalcroze pour l'année prochaine, pour sortir plusieurs enregistrements de ses œuvres pour piano.
Il y a encore des inédits, j'imagine.
Oh oui, 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 oui. Et parce que Dalcroze est mondialement connu pour sa méthode rythmique, mais personne connaît, moi non plus, au début, je savais qu'il a été un compositeur, j'ose dire, remarquable. Il a écrit des symphonies, beaucoup de musique de chambre, des œuvres pour piano, avant de se consacrer à tout ce qui était lié à sa méthode. Donc là aussi, c'est si on a l'idée des chansons de Dalcroze pour les enfants, que c'est peut-être le patrimoine le plus connu aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a composé avant. C'est de la musique qui sonne encore une fois beaucoup plus allemande que française. C'est des œuvres de jeunesse. Je parle de pièces pour piano qui a composé bien avant de se consacrer à la méthode. Vous savez que Émile Jacques Dalcroze est né à Vienne, en Autriche, et il a fait ses études avec Bruckner. Donc l'évidence, l'influence de son maître est évident, mais là aussi on trouve une côté un peu improvisatif qui, à mon avis, fait le lien entre cette musique avant la méthode et tout ce qu'il a développé il y a 100 ans avec cette liberté d'improvisation. Ça doit être incroyable. Si vous pensez comme c'était l'enseignement de la musique il y a 100 ans avec le solfège, il faut suivre le cours au conservatoire, il était évidemment sur une autre planète, Dalcroze à l'époque. Et c'est un compositeur, un de grands noms connus, mais on connaît seulement une facette de sa production. Et l'autre facette, nous sommes très heureux de vous la faire découvrir.
Oui, et on va se quitter peut-être alors avec une pièce d'Émile Jacques Dalcroze.
Juste une petite question, je me demandais, j'ai encore dans l'oreille cette mélodie de Hans Huber, ce qu'on a écouté d'Émile Robert Blanchet. Je me demande si, au-delà de la naïveté musicale suisse, il n'y a pas quelque chose de l'ordre de l'humilité.
Pas de grand révolutionnaire, peut-être.
Non, mais évidemment, il y a musique allemande, mais la musique allemande, les thèmes, souvent, quand on parlait, on évoquait Brahms, les thèmes sont magnifiques, mais très complexes. Il y a une mise en scène musicale, alors que j'ai l'impression que dans la musique suisse, la musique est donnée, elle n'est pas retenue, elle est juste donnée et en toute humilité.
Oui, ça pourrait être une solution. En fait, la réponse à cette question, la musique suisse existe-t-elle? Nous, on l'a pas. C'est samedi, peut-être, j'espère, avec cette table ronde, on va voir une brouillon de réponse.
Ouais. On vous écoute en tout cas d'Alberto Riva, donc dans une pièce d'Émile Jacques Dalcroze.
C'est son opus 10 qui s'appelle Esquisse, et celle que vous avez choisie est une Träumerei, un titre très schumannien, une rêverie. Thank you.
Je persiste dans cette idée que l'humilité pourrait être l'une des clés de voûte de la musique suisse. Mmh. Émile Jacques Dalcroze, Traumerei, donc qui n'est pas enregistré alors en l'occurrence.
Non,
ça sera enregistré l'année prochaine.
Voilà, donc il y a un gros travail encore à faire d'enregistrement autour de ces œuvres. Merci infiniment Adalberto Riva.
Merci à vous.
Et puis je rappelle donc cet événement donc à Cossonay.
On n'a pas donné le titre qui est intéressant comme titre de disque.
D'Alpe à Lac, alors, voilà. Le tout au pluriel, Alpe avec un S, A, Lac avec un S, composition suisse. Rendez-vous le matin si vous voulez assister au masterclass. C'est toujours intéressant, je suppose que c'est samedi. Public.
Oui, c'est tout est public.
Voilà, ouais, donc ouais. Clarinette, chant, harpe ou piano. Et piano, c'est vous, Adalberto Maria Riva. Là, vous avez mis votre nom d'artiste en entier. Masterclass jusqu'à midi. Et puis l'après-midi, 17h30, on l'a dit, une question et peut-être une réponse. La musique suisse existe-t-elle? Suivie à 20h d'un concert avec des œuvres uniquement d'ailleurs, pas essentiellement, uniquement de compositeurs
suisses morts ou vivants.
Oui, Émile Jacques Dalcroze, Julien Françoise Binden, Hans Huber, Otmar Schoeck, Michel Ostetler, etc. On en parlait tout à l'heure. Merci David Mestri.
Je vous en prie, Michel.
Vous irez?
Oui,
vous irez suivre. Voilà, Jacques Chamkerton, vous continuez hein, vendredi.
Je reviens vendredi. Ouais.
Deuxième volet autour de cette question sur la musique suisse, existe-t-elle? On en a eu la petite preuve là, en tout cas aujourd'hui. On va.